Bonjour à tous et bonjour à toutes, merci d'être avec nous sur Radio Judaïca Strasbourg sur le 102.9. Aujourd'hui, notre invité est Michèle Ayat. Elle a écrit un très beau livre, La trompette de Smatro. Bonjour Madame Michèle Ayat.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Radio Judaïca Strasbourg. On va, juste peut-être avant de parler du livre, on peut vous connaître un peu qui vous êtes ?
Écoutez, je suis une dame qui a écrit son premier roman maintenant, donc sur le tard, parce que je suis née en 1939. Voilà, alors j'ai
Qu'est-ce que vous avez fait avant d'écrire un roman ?
Écoutez, j'ai fait des études de toute façon, et surtout j'ai fait 2 années d'atelier d'écriture. Et puis après, j'ai eu une information qui a trotté dans ma tête, l'information selon laquelle c'était une famille juive, les Karnowski, qui était exilée à la Nouvelle-Orléans après les pogroms en Lituanie.
Oui.
Et bon, de cette famille, je n'avais pas beaucoup de détails, mais j'ai inventé une famille à 2 enfants.
Oui. On va en parler tout au long de l'émission. On va commencer par le début. Vous avez dit que la trompette de Smatro, d'abord, on va expliquer ce que ça veut dire Smatro. C'est en fait le surnom de Louis Armstrong dont on parle dans le livre.
Oui, Smatro, c'est un surnom qu'il a eu, mais après son enfance, quand il a commencé à être un peu célèbre, c'est-à-dire dans les années 20.
Oui.
Mais quand il était petit, on l'appelait pas encore Satchmo, bien que ses copains, ses petits voyous avec qui il jouait dans la rue quand il était gosse, l'appelaient Satchel Mouth, qui veut dire bouche en sacoche, c'est-à-dire une très grande bouche avec une lèvre supérieure assez importante.
D'accord. Alors, voilà. Ça c'est Smatro. Alors vous dites, et vous l'avez rappelé au début de cette interview, que cette histoire dont vous racontez est un roman. Mais la biographie, en tout cas, ce qu'on nous a envoyé à la presse, c'est que finalement, vous êtes, c'est un roman historique, on va dire. Ça s'approche de la vérité.
Historique, il y a beaucoup de faits réels.
Voilà.
C'est quand même un roman.
D'accord.
C'est-à-dire que tout ce que je raconte sur Armstrong est en grande partie vrai, parce que j'ai lu beaucoup de ses autobiographies.
D'accord.
J'ai lu beaucoup de choses sur la Nouvelle-Orléans. Donc tout ça, c'est basé quand même sur des faits réels. Les noms sont les vrais prénoms.
Ouais,
les prénoms sont les vrais prénoms. Et bon, la famille Karnowski, j'ai assez peu de détails. Je sais que c'est une famille... elle a existé, hein.
Ouais.
C'était bien Karnowski. L'héroïne du roman s'appelait bien Esther.
Oui.
Mais je ne sais pas grand-chose de cette famille, sauf qu'ils sont partis de Lituanie.
D'accord.
Ou de Russie, je ne suis pas très sûre.
Alors on va revenir au début de l'histoire du livre, parce qu'elle est intéressante. Donc je vais essayer de résumer en gros. Donc c'est l'histoire d'une famille, vous l'avez dit, Kranowski, qui est partie de Vilna, en tout cas de la Lituanie, à cause des violences, on va dire, en tout cas des débuts de pogrom. Elle s'installe à la Nouvelle-Orléans. Un des 2 enfants de la famille décède et la mère, Esther Kranowski, donc, se prend d'amitié pour un jeune garçon qui s'appelle lui, qui deviendra plus tard Louis Armstrong.
C'est tout à fait ça.
Voilà, j'ai résumé en gros. Il y a 2 ou 3 petites choses que je voudrais savoir. Cette histoire d'un des enfants qui va en Palestine, c'est une histoire que vous avez créée.
Oui. Oui, ça c'est tout à fait imaginé. Moi, j'avais besoin du départ de ces enfants. Il y en a un qui est décédé. Il avait 7 ans, il était très fragile, donc il est mort d'une pneumonie en arrivant à la Nouvelle-Orléans.
Ça aussi, c'est créé.
Comment ?
Ça aussi, c'est romancé.
Oui. Non, ça, j'ai créé. La famille Karnowski a beaucoup de choses que j'ai créées. Ils ont, en tout cas, ce qui est sûr dans ce que j'ai écrit, c'est que c'est une famille qui a aidé le petit Armstrong, qui l'a sorti du ruisseau.
Ça, c'est sûr.
qui lui ont donné à manger parce qu'il était constamment affamé,
ouais.
qui lui ont donné un petit boulot de ferrailleur, de livraison de charbon.
Dans la brocante du monsieur, de Maurice Kranowski.
Alors, la brocante, en fait, n'existe que dans ma tête. Hein.
D'accord, ben, on la prend volontiers.
Voilà.
Mais alors, la question que je me posais, c'est que, à la fin du livre, vous racontez que quand Armstrong termine sa vie, devient très célèbre, il garde un collier avec une étoile de David. Ça,
oui.
Ça c'est vrai.
Et ça c'est tout à fait vrai.
Et il continue d'ailleurs à la porter et on voit un peu. Alors, à votre avis, dans l'histoire que vous avez constituée, la mort du deuxième fils de Esther Kranowski l'a poussé à s'intéresser à Louis Armstrong ou il y aurait une autre version, selon vous ?
Non, la seule chose, c'est que cette femme se retrouve toute seule, puisque son fils est décédé. Mmh. L'aîné est très idéaliste, il veut rejoindre les pionniers en Palestine.
Mmh.
Donc à 17 ans, il va quitter la Nouvelle-Orléans. Et donc elle se retrouve seule avec son mari. Son couple commence à se défaire un petit peu. Et elle a plus de but, elle est malheureuse, elle ne sait pas quoi faire. Et un jour, elle rencontre ce petit. Et elle sent qu'elle a une mission à remplir parce que elle se rend compte qu'il chante très bien, il chante dans les rues avec ses copains.
Mmh.
Il va écouter de la musique chez le célèbre King Oliver qui deviendra son mentor.
Mmh.
Et elle se dit, là j'ai quelque chose à faire, je veux vraiment sortir ce petit de la délinquance et de la drogue parce que s'il continue à grandir comme ça, c'est ce qui va lui arriver.
Mmh.
Et elle décide avec son mari, mais surtout elle décide de le prendre sous son aile.
Alors,
et voilà.
On va pas tout déflorer parce que
il
y a des histoires et on verra quel est l'impact de Louis Armstrong sur la famille Kranowski et sur l'entourage qu'il avait lui. Vous aimez le jazz, c'est comme ça que vous êtes arrivé ou c'est l'histoire qui vous intéressait?
Non, je crois que c'est l'histoire qui m'a intéressée plus que le jazz. Mais je pense que mon roman, la musique est aussi très, très présente dans le roman. Parce que la Nouvelle-Orléans, la musique de jazz se déversait. D'ailleurs, pas que du jazz, hein, il y avait des musiques européennes aussi.
Mmh.
Parce que c'est un melting pot, hein, la Louisiane. Donc, voilà, c'est ça surtout. Mais bon, je connais un peu de jazz comme tout le monde,
ouais.
Hein, mais plutôt de ma génération, c'est-à-dire Armstrong, Billie Holiday, Sidney Bechet.
Alors moi c'est la question que je me suis posée, c'est
oui.
Comment vous êtes tombé sur cette histoire? Ça a été un hasard ou il y avait chez vous quelque chose qui vous a poussé à vous occuper ou en tout cas à travailler sur Armstrong?
Écoutez, c'est juste le fait qu'une amie m'a dit que Armstrong avait été vraiment soutenu par une famille juive, qui m'a donné l'idée de faire ce roman. Et j'ai beaucoup aimé les relations entre Esther, donc Madame Kranowski, et le petit Louis. J'ai beaucoup aimé leur relation. J'ai beaucoup aimé ses doutes à elle, ses questions, parce que c'était un petit garçon hors norme. Hein. Donc il fallait le suivre, il fallait lui donner une éducation qui n'était pas une éducation normale, entre guillemets, si je peux dire. Voilà, c'est ça qui m'a intéressée.
Qu'est-ce qui l'a intéressé à Mme Kranowski de s'occuper de Armstrong? Il y en avait plein des petits, lui, à l'époque, en Nouvelle-Orléans. Pourquoi lui? C'est un jeune mot, mais pourquoi
Parce que la première fois qu'elle l'a vu,
ouais.
Il se faisait tabasser par un groupe de petits voyous. Et donc, elle est allée vers lui, elle l'a séparé de ces jeunes gens.
Mais elle a ressenti quelque chose,
elle a ressenti ça, parce que ça lui a trop rappelé ce qu'elle a subi à Vilna, surtout son petit garçon écolier avait subi à Vilna par les élèves de sa classe au moment d'un antisémitisme qui enflait de plus en plus. Et quand elle a vu ce petit, elle a eu comme un écho de la souffrance de son garçon à l'école.
Alors, ce qui est intéressant aussi à noter, c'est que Louis Armstrong, quand il parle de cette vie-là, il le reconnaît que c'est une famille juive, il ne le dit pas. À votre avis, c'est vraiment Mme Kranowski qui a réussi à faire devenir ce qu'est devenu Armstrong? Sans elle, il ne serait pas arrivé, malgré son grand talent?
Non, ce qui me paraît sûr, c'est que s'il ne l'avait pas sauvé de la vie, de la rue, pardon, je pense qu'il ne serait pas arrivé là où il est arrivé. Parce qu'il n'avait plus besoin d'être dans la rue. Il a été canalisé quand même, parce que c'était un petit impétueux et très épris de liberté.
Oui, en même temps, il a passé un petit moment dans une maison de redressement,
et
ce
oui,
qui l'a fait avancer.
Oui, c'était une graine de délinquants. Voilà. Mais c'était un garçon, je crois, très généreux et très honnête depuis qu'il était petit, parce qu'il avait une mère qui chérissait son fils, malgré ces bordels qu'elle fréquentait. Mais pour son fils, elle était très exigeante.
Alors, ce qui est aussi très intéressant dans votre livre, et j'ai beaucoup aimé ce côté-là, c'est que on sent la pauvreté, mais en même temps, on sent la joie de vivre. Ça aussi, c'est important de pas jouer dans, entre guillemets, dans le pathos de la pauvreté, de la vie compliquée qu'il y avait à Nouvelle-Orléans.
Oui, je ne voulais pas justement qu'il y ait ce pathos. Je voulais surtout qu'il y ait une humanité dans ce livre, une sensibilité, une femme qui s'intéresse non plus à elle-même, comme elle le faisait avant de quitter la Lituanie, mais qui s'intéressait aux autres et qui voulait vraiment sauver ce petit. Elle se sentait tellement responsable de ce gosse qu'elle avait rencontré, qu'elle se disait il faut vraiment arriver à le sortir de ce milieu, du quartier noir surtout. Quartier noir, c'était un lupanar, hein, faut dire ce qu'il
est. Alors, voilà. On rappelle Michel Ayat, La trompette de Smacho, aux éditions Écriture. C'est un roman, je vous conseille de lire, parce que vraiment c'est très agréable et on n'a pas envie de s'arrêter. On a envie de continuer cette histoire, malheureusement, elle s'est finie à un moment où vous lirez le livre et vous saurez où ce moment se termine là. C'est une très belle fin. Alors Michel Ayat, on va terminer évidemment cette émission grâce à notre ami Thomas pour écouter un morceau justement de Louis Armstrong, vous êtes d'accord?
Très bien, merci.
Merci Michel Ayat. On rappelle La trompette de Smacho aux éditions L'Écriture. C'est le premier roman de Michel Ayat.
Now, ladies and gentlemen, here's one you all can sing with us when the saints go marching in.
Notre invité à présent, Yves Azéroual. Bonjour Yves Azéroual.
Bonjour.
Je vous présente comment? Comme journaliste ou écrivain?
Les deux, et documentariste aussi.
Ah oui.
Je réalise des documentaires.
Alors, vous avez écrit un livre qui s'appelle Mufti, c'est un roman. Comment un journaliste fait un roman? C'est venu comment?
Alors, j'en suis à mon 12e livre et premier roman en effet, et tout est parti d'une information que j'ai collectée sur Internet, à savoir une vente aux enchères de 6 photos inédites du grand Mufti visitant un camp avec ses alliés nazis et des collaborateurs du régime. Et où a lieu cette vente aux enchères? Je la découvre sur Internet. Elle a lieu à Jérusalem. Et j'ai tout de suite vu dans cette information quelque chose de romanesque. Mais ce qui m'a surpris, c'est que peu d'informations étaient divulguées sur le grand Mufti. On savait très peu qui était ce Mufti, donc j'ai enquêté, et mon double journaliste part à la fois sur les traces de ces photos, et sur les traces du Mufti.
Alors pourquoi pas avoir fait un livre, on va dire, un peu plus strict, un peu plus journalistique, justement? Pourquoi le roman?
D'abord parce qu'il y a eu quantité de biographies, de documents, d'essais sur le grand Mufti. Je publie à la fin du roman toute cette somme de livres qui ont été publiés. Ce qui m'a intéressé sur le roman, c'est que d'abord, je voulais m'exercer à ce type de littérature, d'une part, et d'autre part, je trouvais cette histoire tellement romanesque, tellement propre à être écrite de manière fiction, etc., que j'ai voulu me lancer dans le roman. Et j'alterne les chapitres entre hier et aujourd'hui.
On en parlera dans un
voilà, instant, d'accord. Voilà. Mais tous les faits historiques sont véridiques.
C'est ça. Mufti, c'est qui le Mufti?
Alors le Mufti est un prédicateur religieux. Alors le terme de Mufti, c'est un titre honorifique. Mmh. Il a été nommé par la puissance mandataire britannique. C'est un prédicateur religieux, mais ce Mufti-là, Amin al-Husseini, a une particularité, c'est qu'il a aussi une autorité politique sur les Palestiniens de l'époque. C'est-à-dire qu'il essaye d'exercer une autorité sur tout le monde musulman. Une autorité aussi politique qui passe parfois, assez souvent même, par la violence. Il exerce son autorité souvent en envoyant ses sbires combattre les Juifs, combattre les Anglais, combattre les communistes. Et il est à la fois religieux et politique.
Alors, le journaliste qui va mener l'enquête s'appelle Yechiel Azriel, Ivazweral, c'est quoi? C'est le bon, même c'est votre double?
C'est mon double journaliste, tout à fait.
C'est vous?
En quelque sorte, c'est vrai qu'il me ressemble, c'est vrai qu'il a la même fonction professionnelle que moi, c'est vrai qu'il s'intéresse aux choses auxquelles je m'intéresse moi-même. C'est vrai que moi, dans mon parcours journalistique et dans l'audiovisuel, j'ai beaucoup créé et fait des missions historiques, je suis un passionné d'histoire et de littérature.
Vous êtes créateur de l'émission Secret d'Histoire.
Tout à fait, c'est moi qui ai créé, fondé l'émission Secret d'Histoire, qui est toujours à l'antenne. Et pour bien maîtriser ce personnage principal, j'ai voulu, non pas mieux le connaître, mais mieux me connaître. Et cette recherche, c'est à la fois une enquête journalistique et une quête identitaire, parce que ce journaliste se trouve être aussi juif. Il découvre ses racines en arrivant à Jérusalem au fur et à mesure qu'il mène l'enquête.
Il y a aussi, vous l'avez dit à l'instant même, deux parties dans le livre. En gros, hier et aujourd'hui. Alors hier, vous l'avez dit, c'est les faits historiques. On parle du massacre de Hebron. On parle également de l'histoire entre Hitler et le grand Mufti, qui est une vraie histoire de collaboration active. Ça demande des recherches. Pourquoi avoir mélangé ces deux thèmes au lieu de faire soit totalement un roman, soit totalement un livre d'histoire?
Je voulais pas que... Alors, encore une fois, des livres historiques sur le grand Mufti, il y en a pléthore.
Vous revenez beaucoup sur sa vie. Sur
tout à fait. Alors, je reviens sur sa vie, mais je crois que ce que les gens ont retenu du grand Mufti, c'est sa collaboration avec Hitler. Mais dans ce roman, et pour les faits historiques sur lesquels je m'appuie, je dévoile qu'en fait son antisémitisme est antérieur. Dès les années 30, il a un grand ami, ce grand Mufti, qui s'appelle Al-Banna. Qui est Al-Banna? C'est le fondateur des Frères musulmans. C'est vos auditeurs le connaissent parce que Al-Banna, c'est le grand-père de Tariq Ramadan. Donc c'est lui qui a fondé, ce grand-père qui a fondé la confrérie des frères musulmans. Et ensemble, séparément, mais dans la même époque, ils publient tous deux des pamphlets antisémites. C'est-à-dire que le grand Mufti et l'antisémitisme, c'est une vieille histoire. Et elle a trouvé son aboutissement avec Hitler. Mais il n'a pas attendu Hitler pour être antisémite. Il l'était bien avant. Mmh. Vous avez cité le massacre d'Hébron en 29, mais il a été aussi à l'origine d'un massacre des juifs irakiens à Bagdad. En 41, le Faroud, qu'il a déclenché, ils ont tué près d'une centaine de juifs de Bagdad. Et c'est à partir de ce moment qu'a commencé la fin de la présence juive en Irak.
Alors, vous dites souvent dans le livre que finalement, Al-Husseini, le Mufti, était copain entre guillemets avec Hitler parce que Hitler le payait grassement. C'est une des raisons pour lesquelles il est resté avec lui jusqu'à la fin.
Alors, il est à la fois, bien évidemment, pour des questions pécuniaires. C'est vrai que le régime nazi lui a loué une rente très favorable. Ensuite, il n'a pas fait que ça, Hitler. Il lui a aussi donné la possibilité d'édifier un institut d'études islamiques, qui était un institut de propagande. Il lui a permis d'avoir une radio en langue arabe qui déversait ses diatribes antisémites sur tout le Moyen-Orient, le Proche, le Moyen-Orient, la Palestine et l'Afrique du Nord, en langue arabe, où c'était que des insultes antisémite, et il lui a donné les moyens aussi, et ça les gens l'ignorent ou le savent un peu moins, il a fondé deux divisions de Waffen-SS musulmanes qui ont combattu aux côtés des garnisons hitlériennes.
Eva Zoréal, il y a beaucoup de personnages dans ce livre, et on ne va pas raconter toute la fin du livre, parce qu'il est haletant et très intéressant à la fin, mais il y a un point commun, c'est que toutes ces personnes-là ont la haine du juif. Est-ce que ça veut dire que finalement que vous étiez, en tout cas l'auteur, était seul contre tous ?
Alors, il a ce Iriel Azriel à ses côtés un guide qui est à la fois son exécuteur des bases œuvres, mais aussi son fixeur. En journalisme, on a besoin, quand on va dans un pays étranger, un fixeur, celui qui vous ouvre les portes. Donc lui, c'est un Israélien qui est à ses côtés, qui s'appelle Dani. Et il enquête. Et bien évidemment, pour que cette histoire, qui est un roman policier, ait ses rebondissements, ses zones d'ombre, etc., il fallait qu'il y ait aussi des personnages un peu troubles, un peu sombres. Et là, en effet...
Là, ils sont.
ils sont très sombres. Il a en effet des gens dont, a priori, il pense qu'ils sont ses amis, mais on découvre au fil du roman qu'il joue un double jeu.
Voilà, on n'en dit pas plus. L'histoire s'est déroulée en Israël, puisque la foi a eu lieu en Israël. Et en lisant le livre, je me disais, il n'a pas encore parlé du Mossad. Si, vous en avez parlé. Pourquoi faire rentrer le Mossad dans cette histoire ? C'était pour le roman, justement, pour mettre un peu d'épaisseur ?
Alors, ce qui est intéressant, c'est que le grand moufti, qui a échappé à tous les tribunaux européens, qui a trouvé refuge en France, que les Français lui ont donné un vrai faux passeport pour qu'il puisse s'exiler en Égypte, etc., Ce moufti-là a été cherché par toutes les justices du monde et par toutes les polices du monde. Même Churchill, en 42, monte une brigade juive, hein, qui était sous l'autorité du mandat britannique, pour aller le buter en Irak, pour aller buter le grand moufti en Irak. Ces gens-là sont des gens de l'Irgoud, hein, l'ancêtre des services secrets israéliens, et ils cherchent à le buter. Hélas, ils le loupent, ils le ratent. Mais il fallait... qu'aujourd'hui, il y ait, pour l'intrigue, un lien avec le Mossad, parce qu'on va voir dans cette histoire que ceux qui ont acheté ces photographies ne les ont pas achetées impunément. Ils ont des arrière-pensées. Ces photos qui présentent le grand moufti visitant un camp, ils peuvent servir dans la propagande antisémite actuelle.
Il y a un message dans ce livre ou pas du tout,
parce Si, il y a un message, c'est que l'origine du mal est chez le grand moufti, et ce qu'on vit aujourd'hui, par exemple, dans un pays comme l'Iran, mais aussi avec le Hamas à Gaza, cette haine antisémite, elle vient de pas de nulle part. Elle a été conceptualisée, elle a été imaginée, conçue par des personnages comme le grand moufti, comme Al-Banna. Donc il y a une continuité historique, rien ne vient de nulle part, il y a une continuité historique.
C'est surtout cette association de gens très différents qui ont un seul but, c'est éliminer les Juifs, malgré qu'ils soient différemment entre eux très très mal. C'est un peu ça.
Tout à fait. Enfin, le point commun...
C'est un bilan que vous tenez encore aujourd'hui.
Bien évidemment, non seulement que je le tiens, mais qui est fondé sur des faits historiques. Quand on voit l'alliance objective entre les pires des mouvements gauchisants qui ont des velléités de rayer Israël de la carte et les pires des mouvements d'extrême droite qui ont des velléités, eux, de rayer les juifs de la surface du monde, il y a des alliances objectives. Et ce livre-là, qui part de cette histoire historique du moufti, arrive aujourd'hui, prenez l'Iran. L'Iran, qui est le centre de cette idéologie-là, eh bien, le précédent président, Amin Ahmadinejad, voulait détruire Israël, voulait détruire les Juifs de la surface du globe, organiser des concours de dessin critiques sur la Shoah, qu'il niait la Shoah, etc.
Donc, c'est un peu un écho à votre livre, le film ?
Bien évidemment. Je dis que ce livre-là, mon roman Moufti, c'est l'origine du mal. Et que ce mal-là n'a pas disparu, et qu'il a sous d'autres visages, d'autres identités, d'autres personnalités, il fait écho aujourd'hui, on le voit. On le voit dans cette haine du juif, dans cette haine d'Israël, cet antisionisme-là. le Mufti est à l'origine du nationalisme palestinien. Et quand on va à Gaza, j'y suis allé, quand on voit le Hamas, quand on voit leur propagande, on n'est pas loin de ce roman-là.
Alors Yves Azeroual, on va parler un peu de justement de ce qu'on disait, ce qu'on parlait à l'instant même. Vous avez donc été à la FNAC, à Livret Kléber, excusez-moi, à Strasbourg, Kléber, oui. Dans d'autres ouvrages, d'autres villes. Quel a été le retour, surtout du public non-juif à ce livre ?
Écoutez, tous ont entendu parler du Mufti, mais tous ont entendu parler du Mufti avec sa collaboration avec Hitler, mais pas davantage. Or, quand je raconte sa haine antisémite qui est bien antérieure, qui date des années 30, et quand je raconte aussi que ce Mufti, à l'âge de 23 ans, il s'est engagé dans l'armée ottomane, il a 23 ans, il est officier, il participe au génocide arménien, quand je raconte qu'il a été de ceux qui ont créé ces mouvements, ces divisions musulmanes, les gens sont étonnés, les gens découvrent, ils sont même effrayés. Et ils ont envie d'en savoir davantage pour connaître un peu la vie et l'œuvre, entre guillemets, de ce prédicateur.
Pour les gens qui n'auraient pas encore lu le livre, et c'est dommage pour eux, qu'est-ce que vous leur diriez pour qu'ils viennent à acheter ce livre-là ? Alors, pour être franc avec vous, le début de l'histoire est un peu compliqué, mais à la fin, c'est tellement attelant qu'on n'arrive plus à s'arrêter de le lire. Vous diriez quoi ?
D'abord, que pour ceux qui aiment l'histoire, pour ceux qui aiment les romans policiers, pour ceux qui aiment Israël, pour ceux qui veulent découvrir une...
C'est un livre pro-israélien ?
C'est pas un livre pro-israélien, mais quand vous dénoncez les antisémites, vous pouvez obligatoirement être, en tout cas, pro-juif. C'est-à-dire, quand je fais la somme de toutes les exactions que cet homme-là a commises contre les juifs et contre le peuple juif, on peut qu'être favorable aux juifs et à Israël.
Mais comment vous expliquez justement qu'on ne connaît pas le Mufti, qu'il n'y a pas, je veux dire, un nombre important de gens qui en parlent, qui dénoncent, qui accusent?
Parce que c'est un peu comme mon film, il y a un voile pudique qui est fait sur cette période de l'histoire. On a fait croire très longtemps que la Shoah n'a occupé et préoccupé que l'Europe. Mmh. Or, si les troupes allemandes n'avaient pas été arrêtées à El Alamein, si Rommel n'avait pas été arrêté par les troupes britanniques à El Alamein, le grand Mufti avait pour ambition de faire en Israël, enfin dans le Yishuv, de faire en Afrique du Nord et dans les pays arabes, de faire des pogroms et de faire une réplique de la Shoah. C'était son ambition première. Mais ça, les gens ne veulent pas le dire, ne veulent pas le... Et moi, ce livre-là est aussi là pour dessiller le regard de nos contemporains.
La France a un rôle à jouer dans le départ au Liban de Mufti, ou pas tellement ? Ils ont été très...
Alors, disons qu'il a été après-guerre, il s'exile en France. Ou plutôt, les Français le retiennent prisonnier en France, mais c'est un exil doré. Ouais. Il vit dans une villa, il a des majordomes, il a du personnel. La Grande Mosquée de Paris lui sert des repas quotidiennement. Il reçoit toutes les hôtes qu'il souhaite recevoir, etc. C'est une villégiature assez tranquille. Et la France, qui a peur, parce que la France de l'époque, dans les années 50, elle a des colonies dans les pays musulmans. Elle a une forte population arabo-musulmane. Elle a peur des premiers troubles. Eh bien, alors que les Yougoslaves et les Britanniques et les Juifs du monde entier réclament son extradition, réclament son jugement, parce qu'il ne faut pas oublier de dire que le Mufti a été jugé au tribunal de Nuremberg, mais qu'il a été épargné, il réclame son extradition et les Français, par peur, par couardise, je ne sais pas comment, par lâcheté, eh bien le laisse s'échapper avec un vrai faux passeport et il part en Égypte, soutenu par les pays arabes, qui le considèrent comme un leader. Et après, il ira s'exiler au Liban et il aura un rôle politique très fort après-guerre concernant le nationalisme palestinien.
Yves Azeroual, Mufti aux éditions Le Passeur, il faut citer l'éditeur, et c'est un très bon roman que je vous conseille de dire vraiment en un coup, parce que c'est vraiment l'histoire qui le demande. Merci beaucoup.
Merci à vous.